Laudetur Jesus Christus.
Le Cameroun en tête des crises de déplacement les plus négligées au monde, aussi bien médiatiquement, financièrement que politiquement, souligne un rapport du Conseil norvégien pour les réfugiés. Les détails juste après les titres. Dans ce journal, nous irons au Royaume-Uni où le Premier ministre Keir Starmer a dévoilé un vaste plan de réarmement pour faire face à la menace russe. Au Liban, le désarmement des camps de réfugiés palestiniens devrait commencer le 15 juin. Un défi sécuritaire de taille pour le président Joseph Aoun. Et puis coup d'éclat au pays. Le dirigeant d'extrême droite Geert Wilders retire son parti de la fragile coalition à la tête du pays. En raison d'un désaccord sur l'immigration, les Néerlandais devront retourner aux urnes d'ici peu.
Radio Vatican, le journal, Alexandra Sirgan.
Bonjour à tous. C'est un rapport toujours attendu, celui du Conseil norvégien pour les réfugiés, le NRC, qui liste les crises les plus oubliées de la planète. Dans sa dernière édition publiée ce mardi, l'ONG met en évidence que sur les 10 crises les plus aiguës de déplacement de population, 8 se situent sur le continent africain. Et en tête de celle-ci, Olivier Bonnel, le Cameroun.
Oui, nous avions prédit une autre année difficile pour le Cameroun en 2024, mais nous ne pouvions anticiper une telle aggravation de la crise, alerte le Conseil norvégien. Pour les réfugiés. Depuis plus d'une décennie, le pays de l'Ouest de l'Afrique subit la concomitance de plusieurs crises qui ont provoqué des déplacements massifs de civils. Il y a d'abord le conflit ancien dans le bassin du lac Tchad, auquel se sont ajoutées la violence dans les provinces anglophones, au nord-ouest et au sud-ouest du pays, et puis l'instabilité toujours forte de la Centrafrique voisine qui déstabilise le Cameroun. L'an dernier, près de 3,5 millions de personnes avaient besoin d'aide humanitaire dans le pays, relève l'ONG, qui précise aussi que près de 70% des personnes déplacés vivent hors des camps officiels, ce qui les rend encore plus vulnérables. Au Cameroun, s'inquiète par ailleurs l'ONG norvégienne, la faim a explosé. Au moins 2,8 millions de personnes sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë. Derrière ce constat, Alexandra, il y a surtout un appel à lutter contre l'indifférence. Seulement 45% de l'aide internationale promise a été versée. La crise camerounaise est un parfait exemple des effets de la négligence mondiale, déplore le NRC. Absence de la une des médias et sous-financée.
Merci Olivier Bonnel. La République démocratique du Congo est-elle passée de la troisième à la huitième place de ce classement? L'attention médiatique et internationale accordée aux violences en cours à l'est du pays s'est améliorée, mais les crises, elles, ne cessent de s'empirer. Selon l'ONU, 7 millions de personnes ont été chassées de leur foyer pour des raisons multiples, conflits armés, violences intercommunautaires, catastrophes naturelles ou encore expulsions forcées dans le cadre de projets d'extraction minière. La RDC qui est bien partie pour obtenir un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le vote doit avoir lieu ce mardi. Deux pays sont candidats pour le continent africain, la RDC et le Libéria. À l'ouest des États-Unis, dans le Colorado, un homme a lancé des engins incendiaires sur les participants à une marche hebdomadaire dimanche dernier, organisée en soutien aux otages israéliens à Gaza. 12 personnes ont été blessées, 2 d'entre elles sont encore hospitalisées. L'auteur présumé de l'attaque, un homme d'origine égyptienne âgé de 45 ans, est poursuivi pour crime antisémite. Dans une déclaration publiée hier, l'archevêque de Denver, Mgr Samuel Akiula, a invité à prier pour toutes les victimes. Ce type de violence doit cesser car il ne fait qu'attiser la haine, a-t-il déclaré. Nous demandons au Seigneur d'apporter le réconfort, la guérison et la paix face à une telle haine. À Gaza, le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk, a qualifié ce mardi de crimes de guerre les attaques contre les civils près des centres d'aide dans le sud de l'enclave palestinienne. Pour la troisième journée consécutive, des personnes ont été tuées autour d'un site de distribution d'aide humanitaire géré par la Fondation humanitaire de Gaza, a-t-il indiqué dans un communiqué, cette organisation privée américaine soutenue par Israël. Une délégation de l'autorité palestinienne se trouve au Liban depuis dimanche soir pour examiner avec le gouvernement libanais les modalités de désarmement des camps qui devraient commencer le 15 juin. Beyrouth cherche à étendre son autorité sur l'ensemble du territoire, mais de nombreux obstacles se dressent devant ce processus. À Beyrouth, Paul Khalife.
Les parties libanaises et palestiniennes se heurtent à de nombreux écueils pour mettre à exécution la décision de désarmement des camps de réfugiés convenue entre les présidents libanais Joseph Aoun et palestinien Mahmoud Abbas. Beaucoup reste à faire pour mettre en œuvre cette mesure et les obstacles sont tellement importants que la date du 15 juin pourrait ne pas être respectée. Le principe du désarmement a d'abord été contesté par le Hamas, devenu populaire dans les 12 camps où habitent plus de la moitié des 250 000 réfugiés palestiniens du Liban. Le mouvement islamiste palestinien regrette qu'il n'ait pas été associé aux discussions et exige d'être informé du mécanisme de désarmement. Or, ce mécanisme n'existe pas encore et de nombreuses zones d'ombre entourent le processus. Personne ne sait si le désarmement portera seulement sur les armes lourdes et moyennes ou englobera aussi les armes individuelles présentes dans presque tous les foyers. Les factions palestiniennes opposées à l'autorité de Ramallah craignent en outre d'être principalement concernées par le processus de désarmement et que le Fatah de Mahmoud Abbas en serait exclu. La décision est aussi contestée au sein même du Fatah, qui voit d'un mauvais œil que la sécurité des camps soit confiée aux autorités libanaises. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
Et tandis que le Liban tente de démilitariser son territoire, le Royaume-Uni, lui, se prépare au réarmement. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré que le pays devait désormais se préparer à la guerre et être prêt au combat en réponse aux menaces des pays comme la Russie et la Chine, aux risques nucléaires également et à des risques de cyberattaques quasi quotidiennes. Les investissements porteront sur les nouvelles technologies, en particulier les drones et la construction de 6 sous-marins nucléaires. Depuis Londres, la correspondance de Jean Jaffré.
Après la victoire du Parti travailliste aux législatives en juillet dernier, Keir Starmer avait demandé à des experts un livre blanc sur la défense pour présenter un programme au cours des 10 prochaines années. En dépit de coupes dans le budget des armées sous le gouvernement conservateur, le Royaume-Uni demeure, avec la France, l'une des plus grandes puissances militaires sur le continent européen. Des milliards de livres seront dépensés pour créer des usines d'armement, développer des drones et construire des sous-marins nucléaires, et même s'il faut amputer le budget social et l'aide au développement, a affirmé Keir Starmer à Glasgow. Il a promis d'augmenter le budget de la défense à 2,5% du PIB en 2027 et 2028. Puis à 3% au cours de la prochaine législature. C'est la première fois depuis la fin de la guerre froide, il y a 35 ans, qu'un livre blanc sur la défense ne préconise pas des coupes dans le budget des armées, a souligné le secrétaire à la défense Luke Pollard. Mais jamais le Royaume-Uni n'a eu affaire à autant de menaces directes mettant en danger sa sécurité. Cependant, des experts font remarquer que puisque nous vivons dans une époque troublée, il serait peut-être nécessaire de ne pas étaler ce programme sur 10 années. Londres, Jean Jaffré, Radio Vatican.
Les drones utilisés en grand nombre dans la guerre en Ukraine, notamment ce dimanche lors d'une attaque massive menée par Kiev sans précédent depuis le début du conflit contre l'aviation russe. Le Kremlin dit mardi ne s'attendre à aucune avancée rapide dans le règlement du conflit au lendemain de pourparlers à Istanbul hier. Direction le Pays-Bas à présent, Geert Wilders, chef du parti d'extrême droite néerlandais, le PVV, parti pour la liberté, a choisi ce mardi de provoquer une crise politique. Il est en désaccord avec ses partenaires de coalition sur le durcissement des politiques migratoires et il annonce que son parti quitte le gouvernement moins d'un an après sa formation, la correspondance régionale de Pierre Benazé.
Geert Wilders avait demandé aux trois partis qui sont en coalition avec le sien un durcissement considérable des politiques migratoires aux Pays-Bas, expulsion des doubles nationaux reconnus coupables de crimes, fermeture des centres d'accueil pour migrants, renforcement des contrôles frontaliers et gel des demandes d'asile, bref un plan en 10 points dans la droite ligne de sa volonté de mettre en place, je cite, « la politique d'immigration la plus stricte jamais vue aux Pays-Bas ». Lors de la présentation de ce plan, Geert Wilders avait été accusé par ses partenaires de coalition de vouloir provoquer une crise gouvernementale avec un plan irréaliste, voire illégal sous plusieurs aspects. Il choisit donc de faire chuter le gouvernement en retirant les ministres de son parti, le PVV, alors que ce gouvernement n'est en fonction que depuis juillet dernier. Geert Wilders et son parti pour la liberté étaient arrivés largement en tête aux élections de novembre 2023, mais il n'a pas réussi à obtenir le poste de Premier ministre. La difficile négociation pour la coalition gouvernementale aura duré 6 mois et le retrait du PVV replonge les Pays-Bas dans l'incertitude. Son parti est toujours le premier dans les sondages, mais il est désormais à égalité avec l'alliance écologiste-travailliste, car il a perdu en popularité depuis qu'il est au gouvernement. Les Néerlandais vont devoir revoter, mais les futures législatives s'annoncent très serrées. Pierre Benazé, Bruxelles. RFI pour Radio Vatican.
En Pologne, le Premier ministre Donald Tusk va demander la confiance au Parlement après la déroute de son candidat à l'élection présidentielle de dimanche. Le vote est fixé au 11 juin. Et puis le résultat vient de tomber en Corée du Sud. C'est donc le candidat du Parti démocrate Lee Jae-myung, un ancien ouvrier de 61 ans, qui a été élu. Cette élection vient mettre fin à 7 mois de chaos politique causé par la tentative ratée du précédent chef de l'État Yoon Suk-yeol d'imposer la loi martiale. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre écoute. L'actualité en langue française revient à 18h heure de Rome. D'ici là, bel après-midi à toutes et à tous.